Reportages, documentaires, interviews, expériences radiophoniques, entrez dans le Labo des Savoirs.
Mesdames et messieurs, dans quelques instants, notre TGV Lyria arrivera à Genève.
Genève, capitale internationale du chocolat et des gros sous, mais également mec mondial de l'infiniment petit. Puisque c'est ici que se trouve le Centre européen pour la recherche nucléaire, le CERN, où les spécialistes des particules élémentaires étudient sans relâche les lois fondamentales de notre univers. Justement, le 13 décembre dernier, ils ont annoncé avoir observé le bout du nez d'une particule qui leur échappe depuis 50 ans, le boson de Higgs. Non seulement la seule particule élémentaire qui manque encore à l'appel, mais également la plus importante, puisque c'est elle qui confère leur masse à toutes les autres. Bref, sans elle, c'est toute la théorie de l'infiniment petit qui prend l'eau. Le boson de Higgs est si important aux yeux des physiciens qu'ils n'ont pas hésité à construire la plus incroyable machine jamais conçue par l'homme pour l'attraper, le LHC, Large Hadron Collider. Soit un anneau de 27 km de circonférence, enterré 100 mètres sous terre, dans lequel des protons circulent à la vitesse de la lumière avant d'entrer en collision. De quoi engendrer des myriades de nouvelles particules, et qui sait, le Higgs. Une chose est sûre, depuis 2 ans, le LHC tourne comme une horloge. Et alors que les physiciens sont à 2 doigts d'une découverte, le Higgs ne laisse pas grand monde indifférent. Ce que nous avons pu constater dans le tramway qui nous menait jusqu'au CERN.
Il y a une particule qui manque encore, qui cherche pas mal de monde, les Américains, tout le monde cherche. Alors ils sont en train de la trouver, mais pas encore.
Pour en apprendre davantage, nous avons commencé notre visite à la division théorique du CERN. Des dalles de couloirs sombres où s'enchaînent porte après porte les noms de sommités de la physique et où Alvaro de Rurella, ancien directeur des lieux, a accepté de nous recevoir pour nous expliquer ce qu'est précisément le boson de Higgs.
Bonjour.
Alors le 13 décembre dernier, les physiciens du CERN ont annoncé avoir observé le début, la queue du fameux boson de Higgs, une particule qu'ils recherchent depuis presque 50 ans. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce qu'est ce boson manquant ?
Oui, imaginez que je vous prie gentiment de sortir de cette chambre, je sors aussi, on éteint la lumière, on fait le vide en enlevant tout l'air qu'il y a dedans, on fait un bouclier autour de façon qu'aucune radiation puisse entrer, on refroidit les parois au zéro absolu. Qu'est-ce qu'on a obtenu ? On a obtenu un morceau de vide. Et il s'avère que dans la réalité, dans cet univers que nous habitons, le vide n'est pas le néant. Le vide est une substance. C'est quelque chose qui a une personnalité. Il consiste à quelque chose. Et on croit que le vide est plein, pour ainsi dire, d'une chose qu'on appelle le champ de Higgs. Un champ, c'est une substance invisible, mais qui a un effet. Par exemple, on est assis maintenant dans le champ gravitationnel de la Terre, et c'est pour ça qu'on ne flotte pas. Et il y a les ondes électromagnétiques qui vous permettent d'écouter la radio, vous ne les voyez pas. C'est des champs. Le champ de Higgs, c'est la substance du vide, croit-on. Maintenant, tout champ peut être fait vibrer. Par exemple, si on fait vibrer des champs électriques et magnétiques, les vibrations sont des particules de lumière, qui s'appellent des photons. De même façon, si c'est vrai, comme nous croyons, ça peut dire. Nous sommes convaincus pour de très bonnes raisons que le vide est plein de cette substance qui s'appelle le champ de Higgs. Si on le fait vibrer, on peut produire des particules, comme des particules de lumière, qui seraient les particules de Higgs. C'est cet objet qu'on cherche.
Non seulement le Higgs serait responsable de la masse de toutes les autres particules, et donc de tout ce qui existe dans l'univers, mais serait rien moins que la substance même du vide. De quoi justifier l'édification du plus grand accélérateur de particules jamais conçu, afin de le débusquer dans quelques recoins de l'espace-temps. Une gigantesque machine dont Alvaro de Rurella nous explique le principe.
Cette machine est un double accélérateur circulaire, dans lequel on accélère dans une direction des protons, qui sont des particules qui sont les noyaux de l'hydrogène, dans une direction, et on accélère dans la direction opposée les mêmes particules. Et dans quatre endroits, ces deux autoroutes circulaires où tournent les protons d'une direction ou de l'autre, on les fait se rencontrer. Quand elles se rencontrent, il est possible que dans certaines de ces collisions, l'énergie de ces particules soit convertie en la masse ou l'énergie d'une nouvelle particule qu'on produit instantanément. Et entre autres, on cherche une qu'on n'a pas trouvée pour l'instant, c'est la particule de Higgs. Donc on les fabrique, ces particules. Il n'y a pas des mines de particules de Higgs comme il y a des mines d'or ou de diamants, parce que c'est des particules qui durent très très peu, quelques instants, et ils se désintègrent. Alors on cherche à fabriquer ces particules et à les reconnaître grâce aux particularités des objets dans lesquels elles se désintègrent.
Bref, le LHC n'est rien d'autre qu'une gigantesque usine à fabriquer des particules. Comment ? En tirant parti de l'équivalence entre masse et énergie chère à Einstein, qui est ici mise en pratique en transformant l'énergie communiquée à des protons en de nouvelles particules lors des collisions. Pour ce faire, les physiciens du LHC ont dû assembler 1200 cylindres d'acier mis bout à bout, contenant chacun des aimants surpuissants capables de guider les particules dans un tube central de quelques centimètres de côté. Chaque aimant pèse la bagatelle de 30 tonnes et développe une force électromagnétique équivalente à 500 fois son poids, le tout nécessitant pour fonctionner un courant de 12 000 ampères, l'équivalent de 10 lignes à haute tension. Car c'est à ce prix seulement que les expérimentateurs du CERN ont une chance d'observer le Higgs, une particule si massive, 1000 fois la masse du proton, qu'avant l'avènement du LHC, aucun accélérateur n'a jamais été assez puissant pour l'engendrer. Alors sont-ils parvenus à l'observer ? Alvaro de Rourella nous répond.
Ce qui a été observé, c'est plusieurs exemples de ce qui semble être les désintégrations du boson de Higgs dans les particules qu'on s'attend quand il se désintègre. Maintenant, il y a, dans ces expériences, il y a ce qu'on appelle un bruit de fond gigantesque. Il y a beaucoup d'autres choses qui se passent qui ressemblent à une particule de Higgs, mais qui ne le sont pas. C'est pour ça qu'on cherche l'aiguille dans la paille. Et on a tellement de paille que même si on trouve quelques aiguilles, on n'est pas encore complètement convaincu que ce n'est pas des imitations, pour ainsi dire, des pailles un peu mal faites qui ressemblent au Higgs mais ne le sont pas.
Ainsi, s'ils ne l'ont pas encore découvert, les physiciens ont commencé à enregistrer quelques signes ou traces du Higgs. Mais pour bien comprendre ce qu'ils ont vu, rien de tel que de descendre 100 mètres sous terre, là où les protons accélérés par le LHC entrent en collision au sein de deux détecteurs mastodontes, Atlas et CMS, totalement hors normes. Pour commencer, direction CMS, dont l'accès n'est possible qu'après avoir rempli les formalités d'usage. Afin d'obtenir un pass personnel, à scanner devant chaque porte menant de la surface vers la caverne qui renferme le détecteur.
On peut commencer avec l'œil droit, s'il vous plaît.
Sans oublier un scan de l'iris, qui n'est pas sans rappeler quelques films de James Bond ou de Mission Impossible. L'accès est aujourd'hui autorisé, car le LHC est actuellement à l'arrêt pour maintenance, comme chaque année entre début décembre et la fin février. Sans quoi, il est strictement interdit de pénétrer dans l'enceinte de l'accélérateur et de ses détecteurs, alors que circulent dans la machine deux faisceaux de protons dont l'énergie totale serait suffisante pour faire fondre 500 kg de cuivre.
Oui. On va aller prendre l'ascenseur ?
On va aller prendre l'ascenseur.
Après une longue descente en ascenseur, plusieurs portes où il faut montrer patte blanche et un dédale de couloirs bétonnés parcourus par une étrange tuyauterie et des kilomètres de câbles, on pénètre enfin dans ce qui est tout simplement l'une des plus grandes cavernes jamais creusées par l'homme. Au centre trône CMS, un géant de métal que nous fait découvrir Zoltán Zilasi, physicien au CERN.
Oh well, this is one of the biggest detectors that has ever been built. This is called CMS, compact muon solenoïde, as you see.
CMS, le compact muon solenoïde, est le détecteur le plus lourd jamais construit. Il mesure 12 mètres de diamètre, environ 20 mètres de long et pèse 12 500 tonnes. Ça n'est pas vraiment petit. CMS sert à analyser le fruit des collisions entre protons, car, comme vous pouvez le voir, il est installé sur la trajectoire de deux faisceaux de protons.
This is not a homogeneous mass.
De l'extérieur, CMS est une masse uniformément rouge, mais elle contient en réalité plusieurs sous-détecteurs. En effet, il est impossible de détecter directement le boson de Higgs, car il se désintègre avant même d'être passé à travers les parois du tube de l'accélérateur.
Because they decay almost immediately, even before they would pass through the beam pipe. So even before they would interact with the detector material.
Ainsi, nous ne détectons que les particules dans lesquelles le Higgs se désintègre, et à partir desquelles nous pouvons reconstruire précisément ce qui s'est passé au centre du détecteur. Concrètement, pour y parvenir, nous mesurons la trajectoire, l'énergie et la quantité de mouvement de toutes ces particules.
The particle energy, the particle momentum, and we have to have some clue about what particle it is. In order to do that, of course, as you might imagine, we need several specialized types of.
Raison pour laquelle nous avons besoin de plusieurs sous-détecteurs, et tous ces sous-détecteurs sont encapsulés dans un énormément supraconducteur, dont le champ magnétique atteint 3,8 tesla, ce qui fait de cet aimant le plus gros jamais construit délivrant un tel champ. À titre de comparaison, il est 100 000 fois plus intense que le champ magnétique terrestre.
That's really a huge thing. To understand what is the field strength, this is about 100,000 times stronger than the Earth's magnetic field.
Bref, CMS n'est autre qu'un gigantesque empilement de détecteurs qui forme une structure en oignon autour du point d'impact des protons. De quoi attraper toutes les particules issues des collisions jusqu'à plusieurs mètres dans toutes les directions. Et ce, alors que plusieurs dizaines de millions de collisions ont lieu chaque seconde dans le détecteur. Ainsi, nous avons demandé à Zoltán Szilassi si les physiciens de CMS avaient observé la signature du Higgs, une particule si instable qu'elle disparaît instantanément après avoir été créée. Le Higgs n'est alors reconnaissable qu'à travers les différentes particules dans lesquelles il se désintègre.
Précisément, nous avons enregistré ce que nous appelons un petit excès d'événement. Mais personne ne peut affirmer qu'il s'agit d'un Higgs.
However, this is an overshooting. No one of us can say that this is the Higgs boson that we found. This time,
certes, CMS et Atlas ont vu le même excès pour une masse de la particule autour de 127 gigaélectronvolts. Mais cet excès est trop petit pour conclure d'une façon ou d'une autre. Alors je préfère ne rien dire.
Verdict, pas assez de données pour conclure. Les physiciens ont observé ce qu'ils appellent un petit excès, laissant croire que plusieurs Higgs ont été produits dans le détecteur avant de s'y désintégrer. Mais à ce stade, cet excès pourrait également provenir d'une fluctuation statistique sans la moindre signification physique. Pas d'autre solution que de multiplier encore le nombre de collisions afin de confirmer l'excès déjà observé, à moins qu'il ne disparaisse alors. Et encore, ça ne sera pas suffisant, puisque les physiciens ne proclameront une découverte qu'à la condition d'observer le même signal en provenance de CMS, mais également d'Atlas, le second détecteur géant du LHC. Autrement dit, si et seulement si deux expériences indépendantes observent la même chose. Pour se rendre à Atlas, qui se trouve en un site diamétralement opposé à celui de CMS sur l'anneau du LHC, pas d'autre solution que de rouler une vingtaine de minutes à travers la campagne du pays de Gex à la frontière franco-suisse. Au loin, on aperçoit les montagnes du Jura, de quoi mesurer physiquement le gigantisme du LHC, dont l'anneau de 27 km de circonférence est alors sous nos pieds. En matière de gigantisme, Atlas bat tous les records. Une fois pénétré dans sa caverne, dont le volume serait suffisant pour accueillir Notre-Dame de Paris, le spectacle est à couper le souffle. Le détecteur de 7000 tonnes mesure 46 mètres de long. Et pour apercevoir son sommet, 25 mètres plus haut, il faut se tordre le cou. Pour accéder aux différents niveaux de la machine, pas moins de 12 étages de passerelles métalliques font le tour de la caverne. Aujourd'hui, le fond de la caverne est en effervescence. C'est là, au pied du colosse, que nous avons rencontré Michel Raymond, ingénieur chargé du déplacement des charges lourdes. Avec son équipe, il était alors en pleine préparation de la remise en place d'une passerelle retirée pour les besoins de maintenance du détecteur.
Donc là, on est au sein de l'expérience Atlas. L'expérience a été ouverte donc, pour les besoins de la maintenance et d'amélioration de certains détecteurs. Alors essentiellement, cette année, on avait deux grosses priorités. C'était d'une part des réparations sur les calorimètres, qui est vraiment partie assez proche de la partie centrale. Et puis ensuite, on avait aussi le programme d'installer de nouvelles chambres à muons, ce qui est en train d'être fait là. Donc il y a quand même 13 chambres à muons, chacune faisant à peu près 5-6 mètres carrés. Hein. Là, toutes les zones où on est en train d'installer des chambres sont des zones qui sont couvertes par d'autres détecteurs qu'on a enlevés ou qu'on a déplacés pour l'occasion et qu'on va ensuite, courant février, remettre en place pour, à partir du mois de mars, être prêt à avoir un nouveau faisceau et une nouvelle expérience. Bon, maintenant, la chambre à muons a été installée avant-hier et on est en train de remettre la plateforme en place.
Ce qui frappe, c'est l'allure de chantier du site. Personnel casqué et en bleu de travail, grue télescopique, bruit de métal, alors même qu'il s'agit de manipuler des machines qui, une fois en place, permettront de déterminer la trajectoire de particules microscopiques avec une précision de quelques dizaines de microns.
Quand on referme les détecteurs, on les referme avec pratiquement une précision du millimètre. Le plus gros d'entre eux fait à peu près 1000 tonnes avec un diamètre de 4 mètres, 3,50 mètres de long, et on le positionne à peu près au millimètre. C'est des bons défis. Ce qui est très important pour les physiciens, c'est qu'entre deux runs successifs, ils n'aient pas trop de temps de calibration. Si on remet le détecteur beaucoup trop loin, admettons à 2 ou 3 mm, alors là, ils vont passer des semaines à retrouver la géométrie de leur nouveau détecteur, parce qu'on l'aura trop modifié. Tant qu'on reste dans le millimètre, on leur permet de retrouver un détecteur qui est quasiment identique. La qualité essentielle, c'est d'être très vigilant et très soigneux. On a finalement des millions d'euros autour de nous, hein, pour ne pas dire des dizaines de millions. Il y a des choses qui paraissent anodines, mais s'il faut les remplacer, ce sont des pièces uniques. Pour les remplacer, s'il faut 6 mois ou 8 mois de fabrication, c'est carrément toute une année qui est perdue. Hein.
Une chose est sûre, la recherche du boson de Higgs tient de l'aventure scientifique autant qu'industrielle et mobilise plusieurs milliers de personnes. Physiciens théoriciens, expérimentateurs, ingénieurs, techniciens ou encore ouvriers. Les théoriciens ont imaginé le Higgs il y a presque 50 ans et n'ont plus guère de doute sur son existence. Quant aux spécialistes de la machine, ils mettent tout en œuvre pour démontrer sa réalité, ce qui, au dire des scientifiques, pourrait être chose faite avant la fin de l'année. En sera-t-il alors fini de la quête des particules élémentaires? Pas le moins du monde, car à écouter les physiciens, le boson de Higgs n'est jamais que la porte d'entrée vers un nouveau continent invisible dont ils ont bien du mal à discerner les contours. Mais nous n'en sommes pas là. Alors que le Higgs ne s'est pas définitivement matérialisé dans le creuset du LHC, les couloirs du CERN bruissent des certitudes des uns, des interrogations des autres, et au pays du chocolat, c'est désormais une attente fébrile qui domine.
Les choses se passent exactement comme si le Higgs était là. Les choses s'agencent exactement de la manière qu'il faudrait pour qu'on puisse se dire que le Higgs existe.
I leave it up to you to believe or not that if there is only one missing part and whether you believe whether it should exist or not.
Je travaille ici depuis 15 ans et c'est sûr que je crois qu'on va trouver le boson Higgs.
I think for a scientist you need at least some bit of proof before he's going to say whether or not he believes in something.
Mais maintenant, il y a des nouvelles questions comme par exemple, est-ce qu'il y a 1 ou 5 X et c'est quelle sorte de X?
La situation maintenant est très intéressante. Puis il faut voir avec les expériences plus tard si il y a vraiment une existence ou pas.
On est assez convaincu qu'on est sur le bon chemin.
Voilà donc ce que l'on pouvait dire aujourd'hui sur la traque du boson de Higgs, traque qui devrait prendre fin avant la fin de l'année.
Le Labo des Savoirs, émission activatrice de synapses.